Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la deuxième édition de Radio Foot International sur la Radio Mondiale, en raison évidemment de cette soirée Ligue des Champions et quart de finale. Avec la victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre Aston Villa, qu'il a fallu aller chercher dans l'adversité cette victoire, car après avoir été mené quelques instants, les Parisiens ont réagi et confirmé leur maîtrise de leur jeu, peut-on dire. Emiliano Martinez n'a rien pu faire, un score qui permet tous les espoirs de qualification pour le club parisien au match retour. Nous rejoindrons d'ici quelques secondes Cédric De Oliveira au Parc des Princes. Victoire écrasante par contre des Blaugrana sur le Borussia Dortmund 4-0 avec une certaine facilité pour les buteurs que sont Rafinha et Yamal ou encore Lewandowski qui a inscrit un doublé. Le match retour sera sans doute compliqué pour les jaunes et noirs, même devant leur mur jaune. Et puis demain soir, on sera toujours sur la scène européenne, mais ce sera de la Ligue Europa avec l'Olympique Lyonnais face à Manchester United. Les ambitions du club de l'Américain Textor sont grandes, mais son équipe peut-elle passer ou du moins gagner demain soir à Lyon ? Et puis nous évoquerons cette nouvelle hiérarchie qui est en marche, semble-t-il, en Ligue des Champions. Hier soir, deux grands d'Europe ont mordu la poussière. Et Mikel Arteta, comme Simone Inzaghi, entraîneur d'Arsenal et de l'Inter, semble prêt pour la relève. Ce soir, dans le studio, nous avons Chérif Guémour. Bonsoir, Chérif.
Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous.
Merci d'être là. Après avoir, on a assisté ensemble à ces matchs avec aussi David Lortolari. Bonsoir, David.
Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous.
Et puis notre confrère, Sofiane Amazian, il regardait aussi le match
dans le bureau
des sports.
Salut, Annie. Salut à tous.
Mais on était tous ensemble.
Bien sûr.
David Finzel qui veille et qui m'a aidé à préparer l'émission alors que Laurent Salerno est là aussi derrière les boutons, les manettes comme on dit. Radio Foot, c'est parti.
Rashford avec l'appel de Tielemans dans la surface de réparation. Le centre de Thiago Silva. Et Morgan Rogers qui vient fermer au deuxième à la 35e minute de jeu. Les Lilans d'Unai Emery mènent 1-0 au Parc des Princes.
Doué, plein axe, il a une bonne frappe.
Il a une bonne frappe. Il a une frappe superbe. Désiré Doué. Et il fait déjà souffler le monde et lui magique sur le Parc des Princes. Désiré Doué, un bout partout.
Barasrelia. Contraint face à Axel Tissassi et qui a pris la vitesse de Géorgien qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, la roulette.
2-1 pour Paris grâce à un bijou, un but fantastique de Klicha Barasrelia, le PSG mène 2-1.
Dembélé,
il est parti,
Oui,
Dembélé,
oui, bon ballon.
Pour Mendes,
allez.
Un résumé de cette rencontre grâce à nos confrères de Canal+, qui ont l'exclusivité de la diffusion de ces matchs de Ligue des Champions. Alors, c'est dans une ambiance des grands soirs que les supporters chantaient et déployaient leurs tifos dans ce Parc des Princes pour encourager le Paris Saint-Germain PSG qui s'est donc imposé. Cédric De Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Cédric De Oliveira, avez-vous assisté à un grand match du Paris Saint-Germain ?
Alors, on a assisté à un grand bon match du Paris Saint-Germain. C'est un petit peu la gamme en dessous de ce qu'on avait vécu face à Liverpool, mais on a assisté surtout, on va dire, à une belle soirée. Vous avez parlé de l'ambiance. C'est vrai qu'il y avait une belle ambiance ici au Parc des Princes. Et puis, on a vu le talent offensif des joueurs du PSG avec de magnifiques buts. Donc, peut-être pas le même type de match contre Liverpool, mais en tout cas, Paris qui a pris une belle option sur cette qualification. et puis bah voilà, belle soirée pour tout le monde ici au Parc des Princes.
David Lortolari, peut-être ce qui change le résultat de ce match, c'est ce troisième but qui vient qui est signé Nuno Mendes, mais qui donne un peu plus de confiance pour aller à Birmingham.
Oui, parce que ça faisait longtemps qu'il y avait 2-1 finalement dans le match. On sentait une forme de bras de fer. On sentait Aston Villa qui pouvait aussi à ce moment du match peut-être sortir sur 2-3 actions. Un PSG qui aurait été quand même très très mal payé si par hasard Aston Villa était revenu à 2-2. Finalement, le 3-1 va donner du confort dans les têtes, va donner un peu de marge en plus peut-être à Luis Enrique pour proposer un jeu avec de l'espace au match retour, avec des Dembélé, des Barcola qui sauraient en profiter. Je fais des hypothèses déjà une semaine à l'avance. mais non, 3-1, ça n'a rien à voir avec 2-1, même si il y a encore quelques années avec la règle du but à l'extérieur, ça aurait été plus confortable encore. Mais c'est évidemment, ça change quand même beaucoup de choses d'avoir 2 buts d'avance plutôt qu'un seul.
Exactement. Comment avez-vous vu ce match, vous, cher Yves Guémour? Effectivement, c'est pour ça que je demandais s'il avait vu, Cédric, un grand match. Parce que quand même, le fait d'avoir déjà encaissé un premier but, même s'ils ont réagi très vite, c'était un bon match, mais peut-être pas encore le grand match du Paris Saint-Germain.
Non, je dirais plus... Comment dire, depuis la victoire 4-2 contre Manchester City,
aussi ils avaient retourné une situation.
Dans toutes les compétitions, que ce soit en Coupe de France, en championnat, que ce soit même en Ligue des Champions, on n'a plus vraiment d'inquiétude. On se rappelle, même après avoir perdu 1-0 à domicile contre Liverpool, on savait que ce n'était pas fini. Alors, on ne disait pas que Paris allait se qualifier parce qu'il fallait rester prudent. Puis dès qu'on voit les premières minutes à Anfield, on sait que cette équipe, elle est habitée par beaucoup de convictions au niveau du jeu collectif. Et ce soir, j'ai l'impression que finalement, alors évidemment, pendant longtemps, c'est resté à 2-1, mais c'est un peu le score qu'on attendait, c'est le match qu'on attendait, c'est une grosse domination, Paris favori qui finit par gagner. Bon, il gagne un peu à l'arrache avec le troisième but dans les dernières minutes, mais ce but-là, on l'attendait, on savait qu'il allait arriver. Et sincèrement, on ne peut pas dire qu'Aston Villa ait inquiété non plus le PSG. C'est ça le plus important, à mon avis. Malgré le fait qu'ils aient pris le premier but. Mais ils se sont vite ressaisis, de toute façon.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Cédric ?
Non, je disais que pour abonder un petit peu dans le sens de ce que disait Chérif, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu ce but complètement contre le cours du jeu. Paris qui s'est fait avoir naïvement, notamment avec une perte de balle assez stupide de la part de Nuno Mendes. Bon, c'est pas la première fois d'ailleurs en Ligue des Champions que ça lui arrive des petits errements comme ça. Mais ça vient compenser un petit peu ce qu'il peut apporter offensivement et défensivement. Mais en tout cas, voilà, juste 75% de possession de balle pour le PSG, 29 tir, on n'a pas eu le temps même de trembler pour le PSG, même après cette ouverture du score, parce qu'après, alors c'est vrai que c'est mieux en tout cas que Désiré Doué ait égalisé tout de suite dans la foulée pour ne pas douter, mais il y avait une telle marge pour Paris on se disait bien qu'ils allaient en avoir en tout cas des occasions dans la foulée, et après il y a eu ce 2-1 assez rapide aussi, ça a permis de donner de la confiance à tout le monde, et même en deuxième période, Aston Villa a essayé de sortir, mais c'était plutôt par à-coup, donc... Voilà, je trouve que c'est assez logique, et même le score aurait pu être encore plus large quand vous voyez cette domination, 840 passes, 270 du côté d'Aston Villa. Enfin, ce soir, en tout cas, deux classes d'écart entre les deux équipes, à voir si ce sera comme ça au match retour. Mais victoire complètement logique du PSG.
Sofiane, finalement, ce PSG qu'on voit, c'est celui qu'on a découvert pratiquement depuis ce que disait Cédric d'ailleurs en citant cette deuxième mi-temps contre Manchester City, c'est-à-dire par moment un peu inégal, par moment un peu en dessous, et puis on réagit, on domine, on impose son jeu.
C'est ça, c'est une équipe un peu en réaction. Vous le disiez,
mené. Tout ça qui sait réagir.
Ah oui, qui sait plus que bien réagir. Mené contre Aston Villa, en championnat, mené contre Saint-Etienne, puis derrière ça gagne 6-1.
Dunkerque
en Coupe de France. Bon, là c'est un autre calibre, c'est un club de Ligue 2, mais au-delà de la réaction de l'équipe parisienne qui était, comme le dit Cédric, 2-3 classes au-dessus d'Aston Villa, moi j'étais un peu déçu quand même d'Aston Villa, qui est quand même une équipe d'Unai Emery, une équipe qui aime jouer au ballon. Quand même au Parc des Princes c'est venu petit bras. Alors oui, évidemment il y a peut-être un petit complexe d'infériorité quand on est à Aston Villa et qu'on affronte un Paris Saint-Germain qui fait partie des meilleures écuries européennes ces dernières semaines. Mais des fois, on voyait... Enfin, Cédric a vu le match du stade, mais parfois, on voyait une ligne de 6 défenseurs sur les 20 premières minutes. C'est un foot caricatural. C'est une attaque-défense, mais comme on n'en voit plus dans le foot moderne. C'est là où j'étais un poil déçu.
Je suis un peu d'accord avec toi, et parce que par moment j'ai vu qu'Aston Villa il partait à 3 attaquants, c'est-à-dire qu'en fait ils y croyaient pas
ouais, complètement.
Mais le problème, c'est que quand tu as cette équipe du PSG, mais je pense qu'il te rétame, il t'écrase, il t'éparpille, moi je pense qu'à l'heure de jeu c'est encore jouable sur certaines attaques, puis à la fin c'est plus possible. La force de ce PSG, c'est qu'ils ont encore accru à mon avis leur marge sur les autres équipes. C'est qu'avant, quand Paris avait des temps faibles, les temps faibles ils les subissaient dans leurs 30 derniers mètres. Là, quand ils ont un temps faible, en fait d'abord ils perdent pas le ballon, mais en fait c'est quand ils font tourner au milieu de terrain, mais de toute façon le ballon on leur prend pas, donc c'est ça devient limite injouable, ce Paris.
Alors celui qui a inscrit un but, le premier but du haut de ses 19 ans, c'est Désiré Doué, dont on attend beaucoup, qui hier avait dit à votre micro, Cédric, eh bien ma progression, je la fais, je la sens et je l'assume au contact de tous ceux qui m'entourent. Eh bien écoutons-le, Désiré Doué, c'était à la fin du match.
On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match, c'est-à-dire mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin, rester soudé, rester fidèle au plan de jeu, et ça a encore marché ce soir. Donc bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe. On sait qu'il y a une deuxième mi-temps, un deuxième match à faire, on va aborder le match de la même manière, avec le même sérieux, et on va aller là-bas pour gagner.
Cédric de Oliveira, il était au micro de Canal+, Désiré Doué. Ce joueur qui porte si bien son nom a marqué un but magnifique, et justement le premier en réponse à Aston Villa.
Oui, bon, on est plus surpris, hein, je vais vous dire maintenant, parce que fait Désiré Doué là depuis quelques mois, c'est il a quelque chose en plus, que ce soit au niveau du talent, même de la, on va dire de la pression, qui n'a pas. Alors, il y a eu cette question hier en conférence de presse, justement sur sa capacité à gérer cette pression. Il a dit, oh, moi, détrompez-vous, j'en ai. Hein, mais c'est vrai que voilà, notamment dans son tir au but contre Liverpool, son tir au but aussi avec les Bleus face à la Croatie. Ouais. Voilà, on a l'impression que il gravit les échelons comme ça, assez facilement, comme si de rien n'était, même si c'est vrai que son intégration au début de la saison, on s'en souvient, c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il y a eu ce déclic, je ne sais plus qui le disait en studio, mais cette victoire contre Manchester City en janvier, ce déclic collectif, mais aussi ce déclic individuel pour lui, et bien depuis ça, il marque là, je crois qu'il a marqué sur ses 4 derniers matchs en Coupe de France, en Ligue 1, et donc ce soir avec ce geste de grande classe. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des joueurs en Ligue des Champions qui sont capables de mettre ce genre de but, et ce but aussi important. C'est devenu un joueur très très important de ce Paris Saint-Germain, et Paris, pour aller au bout, on aura bien besoin.
Alors on n'est pas surpris, mais on a tous été charmés, on va dire, par ce but.
Il faut vraiment féliciter Luis Enrique. C'est pas simplement au niveau des joueurs qui se battent, l'émulation, la concurrence. C'est de sentir qu'il était parti au début, rappelez-vous, le numéro 9, le faux numéro 9, c'était Asensio. Ouais. Ensuite c'était Lee. Le monde entier, en France, on attendait Ramos, le numéro 9 et tout. Et finalement, par son pragmatisme et parce qu'il sent les choses, il sent un peu ce que transmet le groupe ou certaines individualités. Luis Enrique, rappelez-vous, normalement, ça aurait dû être Barcola ce soir. Et en fait, Luis Enrique dit non, c'est bien lui, le joueur qui tire tout le monde actuellement, évidemment avec les Dembélé et Kvaratskhelia. Mais faire le choix d'un joueur comme ça de 19 ans en Ligue des Champions, il faut vraiment sentir les coups.
Le but de Kvaratskhelia, David Lortolari, un petit bijou, lui, ce but-là aussi.
Mais en fait, les trois buts sont trois gestes très justes, enfin trois séquences très justes.
Côté gauche.
Côté gauche, bien sûr, c'est Désiré Doué dont on parlait. Kvaratskhelia qui fait un peu de la magie. Comme on le connaît, c'est pour ça qu'on l'a comparé un peu à Maradona, proportion gardée bien sûr. Et puis le dernier but aussi, c'est un geste juste.
Alors, c'était dans le stade qui porte le nom de Maradona, c'était du temps de Naples.
Hein. Bien sûr. Et puis le dernier but aussi, c'est un peu paradoxal ce soir quand même, parce que Cédric mentionnait les 29 tirs, c'est assez énorme quand même à ce niveau-là de la compétition. Il y a entre guillemets que trois buts, mais ce sont trois gestes très justes, très inspirés. Désiré Doué disait au micro dans le petit son qu'il ressent la pression, ou c'est ce que disait Cédric, je ne sais plus. on a quand même la sensation qu'il y a beaucoup de spontanéité dans ce qu'il a fait. On a vu l'action. Kvaratskhelia, c'est encore différent. Nuno Mendes vient de l'arrière. Oui, mais ces trois gestes justes-là montrent que le Paris Saint-Germain a quand même un talent incroyable. Et là aussi, c'est un paradoxe, Annie, parce qu'on repense à un temps très récent encore où il y avait Neymar, où il y avait Messi, et où il n'y avait pas forcément cette fluidité-là dans le jeu.
Oui. C'est étrange, effectivement. Ouais, pour rebondir sur
ce que disait David, pour comprendre un peu ce delta entre nombre de tirs pharaoniques et peu de buts, finalement, c'est parler un peu du match d'Emiliano Martinez,
quand même,
en face. On savait qu'en France, c'est compliqué, il se fait siffler, il a plutôt bien résisté à la pression. Là, je vois qu'il a réalisé 8 arrêts dans le match, il a maintenu Aston Villa à flot. Finalement, il n'y a que 3-1 pour le PSG, c'est aussi parce que...
Il y en a surtout un des arrêts sur la frappe d'Hakimi. Après, c'était pas, on va dire...
C'était pas inouï, oui.
C'est pas le meilleur match qu'on a vu de sa part, mais voilà, c'est un bon gardien. C'est vrai qu'il il peut rien faire, en fait, sur les 3 buts.
Sur les 3 buts, il peut rien faire, ça c'est clair.
Mais on l'a vu très, très déçu et très énervé à la fin du match.
Ça tourne pour une fois,
n'est-ce pas,
hein? C'est un gagneur.
Exactement.
C'est un compétiteur, bien sûr.
En tout cas, brin provocateur aujourd'hui, c'était son petit drapeau argentin teint sur les cheveux, hein, bien sûr. Kvaratskhelia a été désigné l'homme du match. Alors, ce Paris Saint-Germain est-il plus fort qu'auparavant, puisque vous faisiez allusion à ces grandes stars qui sont passées fut un temps dans l'effectif? Eh bien, la question a été posée à Achraf Hakimi en sortie de terrain.
C'est la continuité de la dernière année. Depuis que Luis Enrique est venu, il a montré, il a dit qu'on est une équipe et que la force de cette équipe, c'est tous ensemble. Et je pense qu'on a vu ça la dernière année. Je dis avant, la force de cette équipe, ce n'est pas l'individualité. C'est vrai qu'il y a des actions que chacun y fait, mais après, c'est la force du collectif.
Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric, de ces propos d'Achraf Hakimi?
On pense qu'il a raison. On pense qu'il a raison, notamment parce que, il y avait, on va dire, ce genre de match où, en tout cas, ces dernières saisons, il y avait toujours cette incertitude, en tout cas, de savoir si Paris était capable, de répondre présent sur ces matchs, ces quarts de finale, ces huitièmes de finale. Et là, depuis que il y a eu cette intersaison, on a un petit peu douté quand même, notamment le début de campagne en phase de poule. Mais il y a eu effectivement en Ligue des Champions ces matchs face à l'Atlético de Madrid avec des scénarios qui étaient contraires. Et puis un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce match contre Manchester City qui a tout renversé. Et on voit que
Le
travail
PSG
paye, effectivement, et c'est assez rare. En tout cas, il y a quoi, 2-3 équipes qui dégagent cette impression, en tout cas, cette maîtrise. Et on attend de voir la suite en Ligue des Champions, notamment la semaine prochaine, mardi.
Chérif ?
Moi, je suis catégorique, c'est le meilleur PSGQSI.
Qatarien,
depuis...
donc.
Oui, Qatarien, depuis 11 ans. Je le pense depuis le mois de septembre. Après, il y a des matchs où ils m'ont beaucoup énervé. Je pensais au PSV, en effet, l'Atlético. Ouais, ouais. On va être honnête. Hein. Puis moi, personne n'avait prévu.
Je me souviens de ce que vous aviez dit, d'ailleurs. Vous étiez un petit peu frustré. C'est le mot qu'on puisse dire après ces matchs.
Oui, non. Mais surtout le match de PSV. Là, je ne pardonne rien parce que ça venait vraiment de la part des joueurs et non pas de Luis Enrique. Donc, faut bien faire cette nuance. Mais sinon, au niveau de la maîtrise collective, on le voyait déjà au mois de septembre. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que tout le monde défendait, tout le monde attaquait. Il manquait encore l'efficacité. Personne n'avait pu prévoir l'explosion de Dembélé. C'est la divine surprise. Mais sinon, pour la maîtrise collective, on la voyait dès le début de saison. Il manquait plus que l'efficacité.
Alors, côté Aston Villa, une réaction, celle de Lucas Digne, l'ancien Parisien.
Au départ, on avait réussi à ouvrir le score. C'était à peu près le plus difficile à faire. Après, on est coach une grande équipe aussi, il faut le reconnaître. Et ils ont eu des éclats comme la frappe à Désiré, elle est incroyable. Donc après, c'est à nous de faire le job au retour. Il faudra bien sûr qu'on se découvre un peu plus. C'est une très bonne équipe qui est bien organisée aussi bien offensivement que défensivement. Et c'est un système de jeu qui est différent de ce que j'avais pu connaître il y a quelques années. Mais ça fonctionne très bien et maintenant, ce sera à nous justement de trouver les failles.
Et oui, se projeter sur ce retour à Birmingham. Alors en tout cas, ce qu'on a vu en gros plan, et il sera évidemment là au match retour, c'est le prince William qui a vraiment commémoré le but. Incroyable, hein. J'ai cru qu'il allait étouffer son petit garçon, le prince George, l'héritier, là, qui avait lui son écharpe du club. Et on l'a vu, c'était très amusant, comme consultant pour une chaîne TNT Sport, là, pendant 5
Je lui ai demandé de venir, il a pas voulu.
Et pourtant, je suis sûre qu'il parle très bien français, Cédric. Tradition oblige. Voilà pour ce qui était de ce match du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain, victorieux donc sur le score de 3-1. Merci beaucoup, Cédric. On vous laisse continuer votre travail et rentrer à nos studios. Merci beaucoup. Autre match de la soirée, c'était en Catalogne. Dure soirée pour l'équipe de Nico Kovac. Alors là, on peut parler d'une victoire éclatante, hein. Les jaunes et noirs ont encaissé 4 buts le Barça, mais avec une facilité peut-être déconcertante, Sofiane.
Bon, le Borussia Dortmund n'était pas favori avant cette double confrontation.
Non, même si on se disait finaliste l'année dernière, quart de finale cette année, il y a quelque chose quand même dans cet effectif.
Ça passe par les barrages, ensuite ça élimine Lille. C'était pas une double confrontation particulièrement spectaculaire, donc ça s'avance face au Barça avec quand même des difficultés dans le jeu. Il y a eu un changement d'entraîneur pendant la saison. Ça va un peu mieux depuis qu'il y a Nico Kovac, faut l'avouer, mais bon, bah là,
c'est tardif.
On parlait d'une ou deux classes d'écart entre Aston Villa et le PSG. Là, il y en a 6 ou 7. C'est défensivement que Dortmund a souffert, mais que voulez-vous faire face à des Robert Lewandowski, des Lamine Yamal, des Rafinha qui sont en pleine possession de leurs moyens? C'est un score qui est complètement logique, début de match plutôt serré, mais ensuite bon voilà, on voit la
différence. Presque démonstration.
On est sur une démonstration.
C'est une différence de dynamique. Là, il y a le Barça qui file vers le triplé. Bon, c'est ce qu'on leur souhaite, hein. Puis de l'autre côté, on a Dortmund qui est en train de se rétablir, mais c'est tardif. Là, on est au mois d'avril.
Ouais.
Là, il y avait vraiment une
énorme. Énorme. David Lortolari.
J'ai souvenir d'avoir, un peu plus tôt dans la saison, d'avoir parlé au-delà des individualités, et Dieu sait si ce soir encore Lamine Yamal, ce but, par exemple, sont brillantes au Barça. J'ai souvenir d'avoir ressenti et dit à ce micro que Hansi Flick dégageait un souffle, dégageait ce 4-2-3-1 inamovible, cette espèce de rouleau compresseur avec la technique des joueurs, avec la fluidité de jeu collective. Donc si vous ajoutez le talent individuel des garçons, il y a Rafinha.
Divine surprise de Rafinha.
Bien sûr.
Personne ne l'avait vu pareil.
Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts.
Exactement. C'est lui qui marque le premier ce soir.
Lamine Yamal magnifique. Quelques autres, bien sûr, aussi.
Est-ce que c'est finalement un style qu'on connaît depuis toujours du Barça, mais avec en plus posé par-dessus celui de Flick et qui donne ce résultat pas encore parfait, on va voir s'ils font ce triplé, mais en tout cas si impressionnant, David.
Oui, mais je le mettrais même dans l'autre sens, c'est-à-dire que le style Barça a peut-être pu revenir après que Flick est venu avec des certitudes. Alors en vue d'Allemagne, c'est différent parce que son échec ou semi-échec avec l'équipe nationale a beaucoup marqué les gens qui ont un tout petit peu oublié son écrasante réussite avec le Bayern peu de temps avant.
Là aussi, un triplé.
Un triplé, là aussi. Ouais. Et on a retrouvé ça. C'est-à-dire que on voit qu'avec les joueurs, ça se passe bien. Il y a une connexion, il y a une empathie, il y a quelque chose. Sur le terrain, ce Barça, Sofiane le disait, ça dégage vraiment une force. Et Cédric parlait de 2-3 équipes du niveau de Paris Saint-Germain en ce moment. Le Barça en fait partie. Après, derrière, on a peine à trouver des collectifs qui soient aussi impressionnants en ce moment.
Puis il y a le retour de Lewandowski, pareil. Là, je ne parle pas de divine surprise parce qu'on savait déjà que c'était un joueur...
Il fait un sacré match ce soir.
Et il est le deuxième meilleur buteur
Exactement, du coup, avec une super
saison.
Qui a fait mal à son ancien club, par ailleurs.
Oui, le meilleur buteur de Liga aussi.
Oui, il fut un certain temps où il était du Borussia avant de passer au Bayern Munich. En tout cas, Lamine Yamal a marqué un but absolument incroyable. Mais alors, ensuite, Hansi Flick, il s'est permis... De faire sortir beaucoup de joueurs, parce qu'évidemment il y a ce triplé en ligne de mire, il y a aussi des classicos qui arrivent, évidemment un entraîneur calcule quand on est à 4-0, et on a vu revenir Sofiane un joueur Ansu Fati qui est rentré sur le terrain. Et on voyait le visage de certains supporters entre le doute et le plaisir de le voir revenir.
C'est vrai qu'Ansu Fati, on ne pense pas à lui lorsqu'on fait le 11 titulaire en ce moment du Barça. Ce n'est pas le premier nom qu'on coche. Il a une carrière un peu bizarre. Notre cher Ansu Fati, c'était un peu le nouveau crack post-Messi.
Grosse blessure.
Il y a eu ce prêt à Brighton la saison dernière ou il y a deux ans qui s'est très mal passé. Il est revenu dans une position un petit peu de remplaçant à l'instar de Ferran Torres, mais cette saison c'est plutôt Ferran Torres qui rentre plus en jeu, qui marque beaucoup. D'ailleurs c'est le meilleur buteur de la Coupe d'Espagne, puisque d'ailleurs le Barça affrontera le Real en finale. Ouais. Encore un trophée peut-être pour le Barça, mais oui, bah ça fait toujours plaisir de voir un entraîneur qui concerne tout un effectif, parce qu'une équipe c'est pas que 11 joueurs, on le sait, c'est une quinzaine, c'est une vingtaine, donc oui, ça fait toujours plaisir de revoir des joueurs comme Ansu Fati.
Ça a étonné, en même temps il revient de très loin, on verra comment il revient, mais c'est vrai que c'était une génération presque sacrifiée. C'est un moment où le Barça n'avait pas beaucoup d'argent et a lancé ses jeunes, lui, Gavi, Pedri, très très jeunes, qui ont eu des très graves blessures, Chérif. Ouais. Tous les trois,
on ne va pas oublier. Ansu Fati, on l'avait carrément attribué le numéro 10, celui de Messi. C'était,
oui, Messi l'a beaucoup aidé et propulsé.
Et c'est des joueurs, mais vous le dites, hein, c'était la période noire d'une situation financière catastrophique. C'est aussi d'ailleurs un des ressorts psychologiques de ce Barça. C'est les joueurs qu'on a responsabilisés au niveau de l'image, au niveau du palmarès, parce que il faut absolument gagner des titres. Alors, entre le Real Madrid et le Barça, il faut d'abord être le maître chez soi en Espagne. Et c'est là que le gros des investissements, du sponsoring, des rentrées d'argent, ça passe par être numéro un en Espagne. C'est pour ça qu'ils se tirent la bourre depuis des décennies. Et les joueurs ont intégré ça. On parle de l'effet flic, il y a un effet flic. On parle de cette génération qui monte et qui confirme. Oui. C'est incontestable, on l'a vu avec l'équipe d'Espagne.
Il y a Malcou Barsi.
Voilà, c'est ça. Mais il y a des joueurs qu'on a responsabilisés. Avant, ça passait par des baisses de salaire. Là, ça passe par des salaires plus raisonnables. Mais l'esprit Barça, c'est ce qu'on leur demande d'avoir et ils l'ont aussi. Cette génération doit aussi sauver le club.
Pour conclure cette analyse du match entre le Barça et le Borussia Dortmund, on va écouter le but de Lamine Yamal.
Voilà, ils se sont exposés, les joueurs de Dortmund, et voilà peut-être le quatrième but. Oui, parce que Dortmund cherchait à réduire le score. Et bien voilà, les trois prodigieux du Barça ont marqué.
Alors, il y a la Coupe d'Europe des clubs champions et puis il y a une autre coupe, c'est la Ligue Europa. Avec un autre club français sur cette scène européenne, c'est l'Olympique Lyonnais, lui aussi en quart de finale. Aller opposé demain soir à Manchester United, ce sera à Lyon. Les Lyonnais se présentent avec d'importantes absences, mais l'entraîneur Paulo Fonseca devrait trouver des alternatives. Écoutons l'un des joueurs de cet effectif, Nemanja Tadić. Il parle des ambitions des Gones.
Yeah, we face a very good team.
On va jouer contre une très bonne équipe, un grand club, et forcément, c'est toujours particulier de les affronter. On s'attend à une grosse bataille sur deux matchs, parce qu'on sait que l'aller ne va rien décider. Il faudra être prêt, mais à la maison, avec nos supporters derrière nous, on aura une belle chance d'obtenir un bon résultat et de se mettre dans les meilleures conditions pour le retour à Old Trafford. Notre objectif est clair. On veut jouer la Ligue des Champions l'an prochain. On a deux options, finir dans le top 3 en championnat ou aller chercher la Ligue Europa. Et on va tout donner pour aller au bout dans cette compétition.
We know our objective is to play Champions League next season. We have two possibilities.
Alors, une très belle équipe, il est quand même sympa quand il parle d'une très belle équipe, Sofiane, parce que cette équipe, pour l'instant, de Manchester United, elle est 13e de Première Ligue. Alors certes, la Première Ligue, on connaît le niveau, mais quand même, ce n'est pas une équipe convaincante en ce moment. Est-ce que les Gones ont une chance d'être tombés finalement contre Manchester United, vu leurs ambitions?
Alors, une chance, c'est compliqué de dire ça. Déjà, alors oui, Manchester United vit une saison compliquée, mais ça reste Manchester United. C'est un, c'est un club qui parle à tout le monde. Enfin, Lyon-Manchester United, vous revenez 15 ans en arrière, c'est une affiche de quart de finale de Ligue des Champions. Ça veut aussi dire beaucoup de choses sur la dynamique des deux équipes, mais personnellement, moi, c'est un match qui m'excite beaucoup. Voilà, pour être tout à fait honnête. Alors oui, il y a les déclarations qui donnent aussi un peu de...
Il y en a une deuxième sur laquelle on va
y revenir, j'imagine. Mais non, c'est pas une chance de tomber sur Manchester United, qui fait évidemment de la Ligue Europa un objectif de fin de saison, puisque bon, ils vont peut-être pas, ils vont sûrement pas accrocher l'Europe par le championnat. Alors, ça va pas très bien, oui, mais il y a des matchs qui commencent à être plutôt sympas. Bon, il y a eu le 0-0 face à City. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Shérif. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu plus... un peu plus de qualité qu'il y a encore quelques semaines.
Ce qui va nous mettre d'accord, c'est qu'on va tomber encore, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est toujours le test du football français qui affronte une équipe anglaise. Alors, l'équipe anglaise part favori. C'est un grand nom, c'est pas une grande équipe, c'est un grand nom.
Très grand nom.
C'est exactement ce qui est passé avec Lille contre Dortmund. Ouais. A priori, on dit Lille peut passer. Et finalement, non, ça passe pas. C'est toujours le football français.
Un plafond de verre.
Il manque toujours le petit truc. Par contre, quand j'entends les propos de Matic, je suis rassuré, il parle d'aller la chercher. C'est très rare. Aucun club n'a gagné l'Europa League. Ouais. Et il en parle et tout. C'est peut-être parce que lui a grosse expérience, il a déjà gagné des titres. Ça me rassure. Et je ne vois pas quel complexe Lyon peut faire. Ils sont 4e, 5e, 5e de Ligue 1.
Oui.
L'équipe type, je parle de l'équipe type, elle vaut largement celle de Manchester United. Manchester United, c'est que des déceptions. Ils ne sont même plus en coupe. La Coupe de Ligue... Je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter. D'autant plus que Lyon fait plutôt un bon parcours en Europa League.
Mm-hmm. Oui, oui.
Donc...
Un parcours commencé d'ailleurs avec un autre entraîneur, puisque c'était pas à l'époque, c'était encore Pierre Sage qui était passé par là. Les absences, celles des deux.
Alors Nouama à Lyon.
Voilà, Malik Fofana.
Ouais, ça, c'est
bon, alors on pense qu'il miserait sur Miko Tadze notamment.
Oui, Tadze, Lacazette, Cherki, c'est pas mal.
Almada, l'Argentin aussi.
Almada aussi. Qui monte, ouais,
En prêt gratuit, n'est-ce pas?
Oui, plus ou moins.
Tesman, Matic, Verratti.
C'est vrai qu'il y a du matériel à Lyon.
Dans les buts,
David, oui. Les gants.
Non, je suis d'accord avec le rapport de force dessiné par Shérif à ce stade de la compétition. En plus, là, on n'est pas dans les schémas qu'on a entrevus depuis deux jours en Ligue des Champions avec un gros déséquilibre, avec des choses qui se
pour
sont clarifiées assez net. Oui, voilà. Alors, le Manchester United de récent est assez désespérant globalement et c'est. On a envie de pousser les Lyonnais pour dire c'est maintenant qu'il faut y aller, accéder à une demi-finale, se retrouver avec d'autres équipes autour, on les a un peu à l'esprit, qui sont des écuries un petit peu du niveau de ces deux-là. Ouais. Et donc, il y a une grosse chance. La motivation, elle doit être assez naturelle, me semble-t-il.
Il y a aussi des déclarations un peu le match avant le match où Matic s'est permis de dire que le gardien de Manchester United, on le connaît, le Camerounais André Onana, il l'a qualifié d'un des pires gardiens de l'histoire de Manchester United. Bon, l'autre a répondu.
Onana,
bref,
allumé la mèche.
Et échange d'amabilité exactement entre les joueurs, mais ça c'est avant la rencontre. Et donc le match aura lieu demain soir à 21h heure de Paris, 19h en temps universel. Mais pour l'instant, on va revenir à la Ligue des Champions avec un retour sur la première émission où l'on évoquait la dynamique qu'il y a dans cette compétition. Est-ce que des grands d'Europe comme le Bayern et le Real qui ont mordu la poussière sont en danger, ou en tout cas leur statut menacé?
C'est un Inter hyper solide, un Inter hyper réaliste, un Inter hyper efficace qui prend au piège le Bayern et qui s'impose à l'Allianz Arena, prenant du même coup une belle option pour la qualification en demi-finale.
Grazie a Lautaro Martinez. Gol meraviglioso con Lovati.
It's Rice again.
Oh my goodness! Incredible!
Declan Rice qui permet à Arsenal de croire en une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il y aura un match retour mercredi prochain au Bernabeu. On sait le Real capable de tout. Mais Arsenal a fait un grand pas ce soir.
Two unbelievable free kicks from Declan Rice.
Alors certes, tout est possible dans le football, mais les dieux du foot semblaient les avoir abandonnés hier soir, pas impressionnés par leur nombre de victoires dans cette compétition. Le Bayern et le Real, c'est quand même 21 titres à eux deux. Hier soir, le Bayern donc a été battu sur sa pelouse par une équipe de l'Inter, sans doute très réaliste et efficace, qui a inscrit d'ailleurs deux très beaux buts, alors que le grand Real quittait Londres assommé par sa défaite 3-0. Humillados, c'est l'adjectif choisi par la presse espagnole ce matin à Madrid comme à Barcelone. Est-on en train de voir, les amis, de nouveaux invités dans la Ligue des Champions ? Alors, Vincent Kompany, en tout cas l'entraîneur du Bayern, lui est un peu nouveau, hein, certes, mais le Bayern, par contre, ne l'est pas. Il préfère voir le verre à moitié plein sur cette rencontre.
Nous avons bien commencé le match en dominant nettement la première demi-heure et en nous créant des occasions qui auraient pu nous permettre de marquer un ou plusieurs buts. En seconde période, nous avons continué à presser, nous nous sommes créés là encore de belles opportunités. Thomas Müller, qui joue toujours un rôle clé pour nous, est entré en jeu et a marqué ce but important. Maintenant, chacun fait son travail en étant concentré sur son rôle. Toutes les décisions que j'ai pu prendre étaient purement orientées vers le football et la tactique. À la mi-temps des deux rencontres, le score n'est que de 2-1 en faveur de l'Inter. Notre objectif à présent est donc d'aller gagner à Milan.
Évidemment, il y a toujours des manières de voir les choses. Mais Jean-Philippe Bouchard, est-ce qu'hier quand même, l'Inter Milan, certes finaliste il y a deux ans. Manchester City, deux fois champion d'Italie et sans doute en voie d'être sacré à nouveau. Mais cette équipe qui a peut-être moins de noms ronflants, surtout moins de titres que le Bayern, est-ce que là, comme dans le cas d'Arsenal qui a vraiment renversé le Real, est-ce qu'on a eu des statuts qui ont été secoués hier soir ?
Bah oui, parce que le Bayern, c'est quand même un habitué des demi-finales ou des finales, que cette année, ils ont un rendez-vous quand même dans leur stade à Munich pour la finale. C'est quand même l'objectif du club. Enfin, voilà,
clairement.
Voilà. Et là, ils se sont fait surprendre par une équipe dont on parle souvent en Serie A. Et puis bon, on a vu, c'est la seule survivante des représentants italiens.
Donc, ils étaient eux aussi dans les 8 premiers classés, ils n'ont pas fait les barrages, donc ça commence à signifier quelque chose.
Voilà,
finalement.
Donc c'est une équipe très solide, on le sait.
Ils ont encaissé 3 buts, je crois.
Donc là, peut-être que le Bayern s'est vu un peu trop facile parce que l'Inter, c'est pas parce que
est-ce qu'ils pouvaient faire mieux?
Ouais, je sais pas, mais
la question, elle est réelle,
le Bayern, ils ont un peu le même problème que le PSG en championnat, c'est-à-dire qu'ils dominent de la tête et des épaules, ils n'ont pas toujours une adversité énorme, et que en Ligue des Champions, des fois, c'est le cran du dessus quand même. Et là, c'est un peu le sentiment qu'on a, que l'Inter leur a beaucoup plus résisté que ce à quoi ils s'attendaient, et que ils n'ont pas super bien réagi. Alors après, ça reste
tout
le Bayern,
Il
n'y a qu'un but d'avance, c'est pas fait.
Et est-ce que, alors on sait que tout est possible au retour, mais quand même, le Bayern, justement, Ludovic, ils la veulent cette finale finalement, puisque c'est eux qui l'organiseront indirectement dans leur stade. Et là, tout reste possible, mais quand même, il y a quelque chose d'écorné, non ?
Oui, ils ont plutôt dominé, ils ont eu le ballon.
On parle peut-être pas de humiliation du côté de l'Allemagne.
Non, mais quand même, à domicile, tu perds chez toi. Ils ont tiré 20 fois au but, ils ont marqué une fois. Ils ont vraiment eu des occasions. Mais en face...
Obligé d'en appeler à Thomas Müller, le vieux grognard, on va dire. En plus, le champ du cygne.
Mais en face, non, t'as une grande équipe en face. Et t'as des grands joueurs sur le terrain. Moi, l'Inter, il y a des très grands joueurs dans cette équipe. Donc, ça me fait penser à l'Italie d'avant. Enfin, là, c'est vraiment le football où tu résistes. Et avec un talent fou, parce que Lautaro Martinez, sans doute l'un des meilleurs attaquants européens. Donc, ils ont tout. Les Bastoni, les Barella, les Çalhanoğlu, les c'est très très fort, donc ils se sont fait surprendre, se sont fait avoir en fait, et ça sera très compliqué d'aller
renverser. Matteo Cioffi disait ils sont très malins, très rusés, ils savaient exactement quelle tactique suivre et quel chemin de jeu suivre.
Bayern est tombé dans le panneau.
Quand tu vois l'interview d'Inzaghi avant, tu as presque envie de pleurer en disant les pauvres, ils vont aller à l'abattoir en Allemagne, et tu sais très bien que c'était un positionnement pour prendre l'ascendant aussi derrière sur le terrain, qui en fait ils l'ont très bien fait. Et ouais, ça va être difficile pour le Bayern, franchement. Ce Bayern qui est moins équilibré que l'Inter. L'Inter, elle a quand même l'équilibre défensif-offensif qui est quand même très intéressant. Ah, oui. Il y a moins d'équilibre du côté du Bayern. Donc tu vas être obligé d'aller chercher un score. Et derrière, l'Inter peut en profiter. Ils ont mis deux buts. Le premier est magnifique. La talonnade Thuram, là, elle est incroyable, franchement.
Non, mais ils ont mis des buts, même le deuxième, il est incroyable. Jean-Philippe, vous voulez rajouter ?
Et puis, ils ont quand même un Lautaro Martinez, on parlait de la course au Ballon d'Or tout à l'heure. Lui, il est clairement dans la course aussi, vu ce qu'il fait en Serie A et puis en Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça compte d'avoir un super joueur comme ça. En face, c'était flagrant. Le Bayern, ils ont perdu Lewandowski, remplacé par Kane.
Kane qui a raté un truc dingue.
Là, on voit pas bien pourquoi il fallait laisser partir Lewandowski. En fait, on n'a pas trop vu la plus-value, là, pour le coup. Alors que Lautaro Martinez, on voit la plus-value. Ouais, c'est clair.
Ouais. Le Toro, comme on le surnomme, lui aussi champion du monde. Parce que c'est un Argentin, là, Lautaro Martinez.
Son extérieur du pied est magnifique, franchement.
C'est vraiment un but incroyable. Alors, les statuts contestés, peut-être des clubs, celui aussi des entraîneurs, sans doute. Et l'exemple, c'est Mikel Arteta, qui a gagné la bataille hier soir face à Carlo Ancelotti, le Mister aux 5 trophées européens. Est-il dépassé ? En tout cas, il essayait lui aussi de voir de l'espoir dans cette défaite.
Cette défaite est évidemment difficile à encaisser. On ne s'y attendait pas. Pendant une heure, l'équipe a pourtant montré un bon niveau de jeu avec une première mi-temps, je trouve, plutôt bien organisée. Hélas, après avoir encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté, nous avons fléchi mentalement et physiquement. Terminer le match de cette manière a donc été très compliqué, car nous n'avons pas su réagir, contrairement à notre habitude. Les 30 dernières minutes ont été particulièrement mauvaises. Il est essentiel de faire preuve d'autocritique, de réfléchir et de tout mettre en œuvre pour bien récupérer dans une semaine. Il faut y croire. Après un match et un résultat décevant, il faudra réagir et prouver que nous en sommes capables.
C'est une opportunité de réagir à un mal parti, à un mal résultat, et à voir si nous sommes capables de faire ça.
Et oui, serons-nous capables de renverser la situation ? Bon, on dit que le Real est capable de tout, et évidemment, on veut y croire. Pourtant, au lieu d'une défaite, on pourrait aussi parler d'une déroute, mais on avait l'impression que cet entraîneur, Jean-Philippe, Carlo Ancelotti, avec l'aura qu'il a, il était un peu sans idée hier soir ou sans alternative. Il fait des changements. En plus, Manu Terradias, notre confrère espagnol qui suit le Real au jour le jour, nous dit que c'est toujours les mêmes changements, c'est poste pour poste, il n'y a pas d'innovation. Il a l'impression que quand même, alors que Mikel Arteta, tout avait l'air très clair.
Quelque chose qui est passé un petit peu, qui a été passé sous silence, mais qui, je pense, est assez important dans l'histoire, c'est que Carlo Ancelotti il a eu un procès cette semaine pour fraude fiscale. Alors, je ne sais pas si lui dit qu'il n'était pas au courant, et il a été quand même, c'est requis quand même.
4 ans et demi de prison.
De prison.
Ferme en plus.
Ferme, requis. C'est très lourd. Donc le jugement est en délibéré là, mais
il avait la tête ailleurs.
Je pense que
ils ont tous été condamnés, mais ils vont jamais en prison.
Non, mais c'est pas, il n'ira pas en prison, mais
comme Messi, comme Neymar, la
plus-value d'Ancelotti, c'est un management très humain. Et où il arrive à des joueurs, il a des joueurs extraordinaires, et il arrive à faire qu'ils se subliment, qu'ils arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes, parce que il est très proche de ses joueurs, très humain. Et là, je ne sais pas, on n'était pas dans le vestiaire, mais il était très marqué à l'issue de l'audience. Je me demande si dans son attitude après ça. Il n'a peut-être pas réussi à transmettre autant qu'il peut faire, parce que ce Real, il est un peu cas cette année. Il s'en sort.
C'est du bricolage.
Parce qu'il a des joueurs magnifiques.
Les joueurs derrière ne sont jamais à leur poste.
Mais ce supplément d'âme là qu'il arrive à insuffler à ses joueurs, je me demande si peut-être que
City,
le tuyau
n'était
pas un peu bouché là cette semaine.
Après Jean-Philippe, il bricole depuis le début de saison.
Oui, oui, bien
sûr.
Moi,
c'est ça qui me surprend le plus, c'est que quand tu vois les latéraux du Real Madrid, pardon, ils sont pas du tout. Bon, là, c'est Valverde, mais c'est pas sa place. Ils sont pas du tout
c'est
au niveau.
C'est pas sa place. Alaba, il revient de blessure.
Ils sont pas au niveau. Fran Garcia qui rentre, même Mendy, que je trouve très décevant.
Je suis d'accord.
Cette saison, ils sont pas du tout au niveau.
Mais jusqu'à présent, ce qui était étonnant, c'est que le Real est passé à chaque fois.
Après Jean-Philippe, les deux coups francs là, sincèrement, qui pouvait l'imaginer? Et je vais te dire, même les coéquipiers d'Eklan Rice, personne ne pouvait l'imaginer.
Il a jamais marqué un but sur
non, mais il y a des moments rares comme ça dans le football. Je pense que c'est, franchement, les deux, t'as l'impression que ça vient d'ailleurs. Le truc, c'est comme Thuram qui met deux buts
c'est exactement, c'est la comparaison que j'ai pris.
Il y a un truc qui descend du ciel et il faut quand même ça.
Et Courtois en plus en face, parce que Courtois, tout ce qu'il a arrêté pendant
le match jusque-là.
Donc Courtois d'ailleurs qui se trompe sur le mur. Parce que mettre quatre mecs dans le mur avec rien sur le côté, et il l'a dit après, il a dit j'ai fait une erreur, etc. Il l'a payé cher. Mais tu vois, pour mettre à terre quand même ce Real Madrid, il faut un truc qui descend du ciel. Le mec, il met deux coups francs, il leur mettra peut-être plus jamais de sa vie. Et là, quand même, c'est un truc incroyable. Bon, après, ils ont fait des sauvetages sur la ligne. Ils auraient pu prendre 6-0 hier. Le Real Madrid, c'était complètement dépassé.
C'est ça qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient éteints.
Mais
et dépassés.
Et KO.
Voilà. Et sans ressort. Voilà. Donc, est-ce que ça vient pas de l'entraîneur?
Est-ce que ça veut dire que Arteta était, lui, par contre, complètement au diapason par rapport à cette équipe qu'il façonne depuis 2019?
Après, le retour de Saka a aussi amené des choses parce qu'il a quand même fait des travail sur Alaba sur le côté là. Franchement, il a été impressionnant.
Deux coups francs et deux buts.
Non, mais voilà. Et en plus, lui, même dans le travail qu'il a fait sur Alaba, où il y aurait éventuellement pu y avoir des buts avant avec un vrai numéro 9, puisqu'on parle des faux numéro 9 des Espagnols qui adorent. Mais là, franchement, si tu avais eu un vrai mec qui sentait le coup,
ils auraient pu. Merino joue uniquement numéro 9 avec l'équipe d'Espagne. Il est champion d'Espagne, d'Europe avec l'Espagne.
On a bien senti.
Il y a beaucoup de blessés aussi à Arsenal.
Mais c'est ça. Il y a des blessés à Arsenal. Arteta,
mais l'esprit. Il y a un chemin de jeu, enfin un schéma de jeu, pardon, très.
Arsenal défend très très bien. C'est une équipe qui est très difficile à jouer parce qu'elle défend très très bien. Et c'est là où elle a mis en lumière peut-être la difficulté aussi du Real de trouver les solutions face à une équipe qui défend bien comme ça.
Et Nabil avait beaucoup parlé hier et c'est ce qu'on a vu aussi, le milieu de terrain d'Arsenal.
Bah, le travail qui a été.
Peut-être pas, mais Arteta, c'est un entraîneur génial. Pour tous ceux qui n'ont pas vu sur une certaine plateforme, il y a une saison d'Arsenal, il y a deux ans, je crois, où on voit Arteta, comment il manage ses joueurs, comment il intervient avec sa passion qui est infinie.
Il est incroyable. Par le club
et il est aujourd'hui adoré et adulé par tout un stade.
Et s'il arrive à passer, après le Paris Saint-Germain peut-être, qui dispute son championnat de Première Ligue,
je ne sais pas
ce qui se passera, mais en tout cas, c'est génial pour Arsenal.
Voilà pour ce qui était d'hier, de cette hiérarchie, en tout cas de ces grands qui ont mordu la poussière. Ce soir, David Lortolari, il n'y a pas vraiment eu de contestation comme ça d'un statut.
Non, on peut trouver quelques actions par-ci, par-là, qui auraient pu tourner différemment, un contrôle raté, une situation un peu cocasse, mais globalement, c'était assez net, assez clair ce soir.
Ouais, le Barça, donc, qui a écrasé, presque, en tout cas une victoire éclatante sur le Borussia Dortmund, score sévère donc de 4-0. Oui. Et puis le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui a largement tenu ses promesses, Chérif Guémour, score 3-1 contre Aston Villa.
Bon, ils ont respecté leur statut de favori et puis voilà. C'est franchement ce qu'on attendait. Moi, je ne m'attendais pas à une surprise d'Aston Villa qui vient gagner au Parc.
Alors, même si Aston Villa a ouvert la marque par Rodgers deuxième mi-temps, et puis après.
Quelques minutes
les
ont
Parisiens.
Suffi au Paris Saint-Germain pour revenir à hauteur.
Pour tout le reste, la possession, le nombre de passes, le nombre de tirs au but.
Malgré tout, pour le match retour à Birmingham, on verra ce qui se passe. Le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait au match aller. On verra au match retour. Comment se passeront les choses?
Ils marqueront là-bas.
Ils vont refaire à Birmingham ce qu'ils ont fait à Liverpool.
Sans doute. De toute façon, les clubs anglais ont l'air de réussir à ce Paris Saint-Germain. Et c'est la fin de cette deuxième édition de Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dans Radio Foot International. Bonne nuit.